Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 janvier, vous êtes toujours évidemment à l'écoute de l'autre radio et à l'écoute évidemment de votre émission quotidienne l'AJT du local, avec aujourd'hui avec moi en studio Andy. Bonjour Andy.
Bonjour Marie.
Et on va te retrouver évidemment pour parler de la première commission médico-soignante de France. Elle a été créée à l'hôpital de Château-Gontier et tu allais aller voir justement ce que ça change et ce que ça va changer pour les soignants et les patients. On va aussi parler dans cette émission des Mayennais nombreux à se faire dépister, notamment au drive de Château-Gontier. Un reportage sur place hier après-midi à entendre d'ici quelques minutes. Et puis en fin d'émission, retrouver notre deuxième épisode sur le service national universel avec le chef de centre Alexis Uholmé. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Vous allez devoir garder votre masque sur le nez aussi en extérieur, puisqu'il redevient obligatoire en agglomération en extérieur sur tout le département de la Mayenne jusqu'au 3 février. Une mesure prise par le préfet Xavier Lefort pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Ne sont pas concernées celles qui pratiquent une activité sportive, qui sont en situation de handicap ou les conducteurs de deux roues. Pour les autres, elles risquent 135 euros d'amende. Un chiffre qui fait froid dans le dos à l'hôpital de Laval. Une maman sur 6 a déjà été victime de violences sexuelles. Une proportion élevée mais malheureusement conforme aux données moyennes relevées par l'Organisation mondiale de la santé. Les repérages de ces violences sont souvent faits par les sages-femmes lors des consultations prénatales. Le cas échéant, elles proposent ensuite à la patiente une orientation adaptée selon les violences subies. Hier soir à Laval, une maison s'est embrasée vers 22h. L'incendie s'est déclaré dans une habitation située rue d'Emmaüs, chez une famille de 6 personnes. Une femme de 37 ans et une jeune femme de 16 ans ont été transportées à l'hôpital de Laval après avoir inhalé des fumées. La famille a été relogée chez des voisins. Et puis toujours à Laval, le recensement commence aujourd'hui pour 2400 foyers. Tirés au sort, ils recevront d'abord un courrier présentant le recensement, puis la visite d'un des agents recenseurs recrutés par la ville, muni d'une carte officielle. Vous devez répondre à l'enquête sous quelques jours, de préférence par internet, avec des codes donnés par l'agent recenseur. Plus de mariages et plus de bébés. Le service état civil de la ville de Laval vient de publier différentes données de 2021. 109 mariages ont été célébrés contre 77 l'année précédente et 1185 bébés ont vu le jour, soit 1,2% de plus par rapport à 2020. Ancienne déléguée générale du MEDEF 53, elle a obtenu la Légion d'honneur. Françoise Auvinet fait partie des 547 personnes récompensées pour cette nouvelle année 2022. L'ex-déléguée générale du MEDEF de la Mayenne a été aussi pendant 20 ans déléguée générale de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, toujours en Mayenne. Des files d'attente à n'en plus finir en quête d'un test Covid. Vous les avez peut-être vues, ces images. C'était aussi le cas hier à Château-Gontier, à la halle du Haut-Anjou. Ils étaient déjà très nombreux avant l'ouverture du drive le matin à patienter dans leur voiture, avec un flux continu, quasiment aussi l'après-midi, uniquement sur rendez-vous. Et parmi ces personnes, notamment deux mamans assez inquiètes qui attendaient d'être fixées.
En fait, j'ai de la température et mal à la gorge. Donc voilà, pour prévenir pour le reste de ma famille, je préfère me faire tester. J'aurais été à la pharmacie, mais il y a énormément de monde. Donc, et vu le temps qu'il fait, on est aussi bien attendre dans une voiture. On est nombreux à la maison et donc ça peut, oui, avoir de graves conséquences. Y compris pour le travail de mon mari, oui, qui est artisan. Et puis il y a des fonctionnaires et des gens qui peuvent malheureusement ne pas éviter d'aller au travail. Donc même si je suis vaccinée 3 fois, je suis quand même inquiète.
Eh ben, c'est franchement galère. Ma fille a fait de la température cette nuit à Tornario avec un mal de tête. Moi, j'ai mal à la gorge, donc j'ai appelé pour avoir un rendez-vous chez le médecin. On m'a dit que je ne pouvais pas venir parce qu'il fallait un test PCR pour moi et un test antigénique pour Jody. On a fait 2h30 de queue ce matin, on n'est toujours pas passé. On a été faire les pharmacies. Il y a la queue autant comme autant dehors. Avec le mal de tête de ma fille, c'est pas la peine. Moi, je devais aller travailler. Enfin, je peux pas aller travailler là, dans mon état. Ben là, on va espérer que ce soit négatif et prendre vite un rendez-vous chez le médecin pour qu'on ait les médicaments pour nous soigner, quoi.
Et pour l'instant, l'afflux des demandes n'a pas vraiment d'impact sur le délai de réponse des tests, fixé à 24 heures. Côté professionnel de santé, ils peuvent être jusqu'à 3 en même temps pour réaliser ces tests. Mais hier après-midi, Thomas, étudiant en pharmacie à l'Université d'Angers, était tout seul.
De manière générale, en ce moment, on a beaucoup de monde. C'est sans rendez-vous de 9h à midi.
Et c'est vrai qu'on a, on a énormément de monde. Par exemple, ce matin, à l'ouverture, il y avait déjà la queue de la halle quasiment jusqu'au rond-point. Mais aujourd'hui, c'était quand même exceptionnel, à tel point que la gendarmerie a dû y venir parce que ça débordait sur la route nationale. On voit de tout, hein. En ce moment, beaucoup de cas contacts, hein, avec ou sans symptômes d'ailleurs. Puis des personnes aussi qui sont symptomatiques et qui viennent pour se faire tester, ou alors qui ont réalisé un autotest et qui était positif et qui veulent confirmation, ou alors des gens aussi qui viennent parce qu'ils ont eu une hospitalisation et qu'ils ont besoin d'un test pour rentrer à l'hôpital. On est plusieurs justement le matin pour pouvoir prendre un maximum de patients. Le matin, oui, on est aux alentours de 150 personnes, parfois un peu plus même. L'après-midi, comme là, plus autour d'une cinquantaine.
Et ce rythme devrait se poursuivre au moins jusqu'à fin janvier, avec des dépistages donc sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 16h avec un rendez-vous pris via la plateforme web Covid Express. On va aller juste à côté de la halle du Haut-Anjou, du côté de l'hôpital du Haut-Anjou, où a été créée la première commission médico-soignante de France. On en parle juste après Cassius avec Action. It takes two, point on you, got no clue. Maybe let's pretend. Where you going, what you showing, cash you blowing, face still glowing, ticking, talking, we can rock it, fish this stocking, electric shocking.
When you see a woman do-
C'était Action avec Cassius dans l'agité du local sur l'autre radio. Évidemment, la première commission médico-soignante de France, je vous le disais tout à l'heure, a été créée à l'hôpital du Haut-Anjou et c'est Andy qui va nous en parler.
Et oui Marie, après la publication d'un décret fin avril dernier qui permet la formation de commissions regroupant à la fois les médecins mais aussi l'équipe soignante d'un hôpital, celui de Château-Gontier n'a pas attendu très longtemps avant de la mettre en place. Mais vous vous demandez sûrement à quoi sert ce genre d'assemblée ? Eh bien, nous avons pu poser quelques questions au président de cette CMS, Mohamed Nouri, médecin anesthésiste, mais aussi au vice-président Lionel Batili, directeur des soins et de la qualité, mais aussi de l'Institut de formation des aides-soignants. Ils vont pouvoir nous renseigner sur cette CMS et tout d'abord sur l'importance, selon eux, de la créer.
Alors, on a historiquement une commission médicale et une commission de soins. Donc, on avait déjà l'habitude de fonctionner avec, c'est déjà deux représentations importantes du fonctionnement de l'hôpital en général, qui servent le conseil du directeur qui doit prendre des décisions. La crise depuis 2020 nous a obligés à travailler autrement, beaucoup plus ensemble, de manière beaucoup plus pluridisciplinaire pour gérer la crise. On s'est mis en comité restreint mais pluriel avec la médecine de ville, avec les directeurs, avec les médecins, avec les soignants pour avoir une réponse adaptée à un virus qui était émergent et qui nous a obligés aussi à découvrir et à s'adapter. Et quand il y a eu au printemps 2021 des évolutions de la loi permettant une fusion d'une commission médicale et d'une commission de soins à titre d'option, une espèce d'expérimentation, on s'est dit que c'était peut-être le moment de prendre exemple sur ce qui avait été de notre point de vue vertueux dans la façon de gérer la crise, d'être de manière plus restreinte en personne, mais d'être pluriel, médicaux, non médicaux, avec la direction et au service de la décision du directeur pour conduire les affaires. Et on s'est inspiré de ça dans le calendrier. Et il se trouve que la commission médicale était renouvelée fin 2021. C'était le calendrier normal. Et donc, on s'est posé la question de faire deux en un et de voir quels intérêts on pouvait y trouver. Un des gros intérêts, c'était de prolonger la coopération interne. Médico-soignante, c'est aussi le prolongement d'un projet médico-soignant qui est porté par l'établissement depuis déjà le précédent projet d'établissement. C'était aussi permettre de préserver et amplifier encore le lien avec la ville, hôpital, comme on l'a fait pour le centre de dépistage en son temps, comme on l'a fait pour le centre de vaccination en son temps sur une vision mixte. Et puis de pouvoir avoir une instance la plus agile possible. Des commissions, c'est un peu parfois formel. Il y a des heures du jour, des comptes rendus, un nombre de séances. Là, faire une seule commission au lieu de chacune de nos commissions fois quatre par an, on s'est dit que c'était peut-être plus pertinent et plus agile d'en faire moins, mais d'avoir les bonnes personnes et le bon volume.
Pour rebondir à ce qu'a dit M. Batili, directeur de soins, en fait, ce qui nous a encouragés dans ce sens, c'est la maturité de notre établissement. C'est-à-dire qu'on avait à la fois un corps médical prêt pour aller dans ce sens, un corps soignant également dans ce sens. Et pour vous dire, toutes les instances de l'établissement ont voté à l'unanimité pour aller dans ce projet. On a un établissement où l'esprit innovateur domine en quelque sorte. Notre souhait pour cette commission, c'est qu'on n'ait pas deux commissions, une à côté de l'autre, mais vraiment une commission unique où tous les membres de cette commission sont élus et ils doivent s'approprier ce rôle d'élu. Donc les statuts, les fonctions lors des séances doivent s'effacer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas même si, par exemple, moi je suis médecin, mais dans cette commission, je vais être un élu des médecins, représentant la voix des médecins, dans le sens où je dois porter leur souhait, leur projet au sein de cette commission.
Et du coup, sur les 42 membres de la commission, comment ça s'organise pour le nombre de médicales et non médicales ?
Alors, M. Giroux, directeur, quand il nous a proposé de travailler sur l'idée d'une commission médico-soignante, il a fallu ensemble qu'on pose les bases et les grands principes de ce qu'on voulait. Et assez rapidement, on voulait une dimension suffisamment représentative, mais pas trop importante en nombre, parce que une commission à 80 personnes, ça ne peut pas travailler correctement, en tout cas pas dans une structure comme l'hôpital de Haute-Anjou, à notre dimension. Donc on a trouvé un nombre de membres qui nous paraissait pertinent. Ce qui était aussi souhaité, c'est que ce soit une commission qui soit paritaire, qui ait autant de médecins que de non-médecins, qu'il y ait bien une parole partagée, et qu'ensuite, dans nos sous-collèges respectifs, on puisse avoir à la fois une part de vraie démocratie par rapport à des candidats qui sont élus, qui représentent des collèges, et aussi une petite part de représentativité, puisque les chefs de pôle, par exemple, sont membres de droit, comme les cadres de pôle, ce qui permettait de pouvoir avoir une garantie à la fois de démocratie et de représentativité de l'ensemble de l'établissement. Cette parité et cette taille étaient vraiment deux clés importante pour ne pas rater l'enjeu d'être une commission unique, mais suffisamment agile pour se réunir, produire, réfléchir, et donc proposer au directeur des postures, des priorités, des options qui soient le plus rapidement claires. Alors, les électeurs qui ont voté pour les candidats qui ont produit cette instance sont l'ensemble de la communauté médicale de l'établissement, l'ensemble de la communauté soignante, c'est-à-dire la population infirmière, rééducation, médico-technique, c'est-à-dire les métiers de la rééducation, les kinés, les ergothérapeutes, les diététiciens pour les plus nombreux d'entre eux à l'hôpital, médico-technique, c'est-à-dire les préparateurs en pharmacie, les techniciens en imagerie médicale, et l'ensemble des agents d'accueil médico-administratifs. Globalement, quand on additionne les deux populations qui ont voté, ça représente 85%, 90% de l'ensemble des acteurs de l'hôpital.
On avait des candidats, beaucoup plus de candidats que ce qu'on avait de place à proposer, parce que cette commission, elle est composée de 42 membres, et également un taux de participation dans cette élection qui nous a surpris. Donc même si l'organisation, et là je remercie la direction des affaires médicales qui ont fait un travail colossal, à la fois pour l'organisation des élections, mais pas que, parce qu'il fallait écrire le code électoral, parce que il fallait qu'on écrive un code électoral qui s'approche à la fois de ce qu'on faisait au niveau de la commission médicale et la commission de soins.
Et donc, quel impact ça va avoir sur aussi bien les soignants et les médecins, mais aussi sur les patients ?
Alors, le fait d'avoir une commission mixte médicale et non médicale, c'est aussi rapprocher deux populations importantes de l'hôpital. Ce ne sont pas les seules populations de l'hôpital, mais on est sur le cœur même de la mission de l'hôpital, qui est d'accueillir le patient et de le soigner. De pouvoir travailler ensemble de manière plus rapprochée, plus partagée, c'est aussi de pouvoir partager à la fois la dimension opérationnelle, ça on faisait déjà, de part et d'autre, mais aussi de pouvoir partager aussi les orientations stratégiques ou les choix stratégiques qu'on peut être amené à faire pour être force de proposition auprès du directeur, puisque le directeur qui travaille avec un conseil de surveillance, l'équivalent de ce qu'on appelait en bon un conseil d'administration, l'idée c'est de pouvoir être une audience unique, pluriel, qui partage cette dimension stratégique au service du conseil du directeur et du directoire. C'est qu'on puisse avoir un regard mieux compris aussi que ce qui serait décidé quelque part par quelques-uns et qui serait plus compliqué à traduire dans la compréhension de l'ensemble des autres collaborateurs.
Je pense que c'est une évolution aussi de la médecine. Le modèle biomédical s'intéressant uniquement aux problématiques aiguës, vous avez une angine, vous allez voir un médecin, il vous donne des antibiotiques et puis votre problème est réglé là quand on est dans l'aigu. Ce modèle dans toutes les pathologies chroniques, et souvent un hôpital, il est là pour recevoir surtout les patients qui sont lourds. Si je donne un exemple, une patiente ou un patient qui a une sclérose en plaques, avec des difficultés, une forme de paralysie, des problèmes, bien sûr, ça entraîne des problèmes psychologiques, sociaux par rapport au travail. Donc ce modèle biomédical où le médecin juste il va donner des médicaments pour stopper l'évolution de la maladie, il va trouver ses limites. Et donc si on n'est pas dans un modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois une prise en charge globale de la personne avec des infirmières formés avec des pratiques avancées par rapport à des problématiques qu'on a et malheureusement qu'on va encore avoir, notre soin ne va pas être performant. Donc, si je prends un exemple, quand on va faire tous nos programmes d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que c'est la base de la prise en charge des pathologies chroniques, les maladies qui persistent, si on discute pas ensemble, en équipe, comment, quels sont les projets pour nous de ces formations pour le patient, on les discute pas ensemble, bon, on va avoir des commissions, chacun va discuter dans son petit coin, et je ne pense pas qu'on va être performant et surtout réactif. Notre modèle, c'est d'essayer d'imiter les startups modernes pour comment on peut aller en fonctionner plus vite par ordre de mission et surtout travailler rapidement et simplifier la lourdeur parfois administrative de nos structures.
Donc, est-ce que c'est une fierté pour vous d'être les premiers en France à créer ce genre de commission ?
Bien sûr, on est fiers surtout de pouvoir travailler ensemble et surtout de mettre le patient au centre, dans le centre de nos intérêts. Cette hiérarchie qu'on a dans les établissements, il faut à un moment donné qu'on mette un petit peu nos égos un petit peu de côté pour voir comment on peut faire pour les aider nos patients qui parfois sont en difficulté.
Pour combien de temps êtes-vous élu ?
Écoutez, à ce jour, conformément au code électoral, le mandat est de 4 ans. L'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois d'inventer ce qui n'existe pas, mais de rester le plus possible quand même conforme aux exigences réglementaires nécessaires pour éviter qu'on soit rattrapé par une incongruité ou une non-conformité qui nous gênerait. Toujours pour avoir cette conformité minimale, on est censé faire 4 commissions médicales par an et 3 commissions de soins. Donc là, on a décidé qu'on en ferait minimum 4, comme ça on répond aux 2 minimums légaux. On en fera sûrement un peu plus cette année, d'abord parce qu'on l'installe et qu'ensuite on a une échéance importante avec une visite de certification de la Haute Autorité de Santé qui est programmée sur le mois de juin et qu'on a besoin de pouvoir valider un certain nombre de choses et d'entraîner, d'informer la communauté médicale soignante et l'ensemble de l'établissement sur ces échéances.
Et donc, comme vous l'avez compris, l'hôpital de Château-Gontier est le premier en France à créer ce genre de commission. Il devrait être un exemple pour d'autres hôpitaux qui pourraient être amenés à suivre les pas de nos médecins et soignants du Haut-Anjou.
Merci Andy. À suivre donc pour ces commissions médico-soignantes, puisque c'est la première du département et première même de France, vous l'avez compris. Une interview que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site l'autreradio.fr. Et tout de suite, on écoute Borderline avec Tame Impala.
We'll be right back.
Borderline Tame Impala. Oui, Tame Impala, c'est ça, dans la JT du local sur l'autre radio. On va passer à notre feuilleton de cette semaine consacré au SNU, le service national universel. Plus d'une centaine de jeunes Mayennais ont déjà participé à ce dispositif. Et donc, on va le décliner en différents témoignages tout au long de cette semaine pour entendre justement les différents acteurs impliqués et interrogés par Andy. Le SNU existe donc depuis 2019 en France. Il a commencé à s'implanter réellement en Mayenne l'an dernier. Et pour le séjour de cohésion de 2 semaines, la première étape, le lycée agricole de Château-Gontier s'est transformé en centre pour les volontaires, chapeauté par Alexis Huolmé. Il est directeur de l'association d'éducation populaire Les Franca en Mayenne et pour l'occasion donc chef de centre pour le SNU.
Mon rôle à moi, c'était d'organiser le séjour sur le site pendant les 12 jours de séjour, d'encadrer à la fois les volontaires et à la fois l'équipe d'encadrement qui était quand même de 21 personnes pendant 12 jours et d'organiser à la fois pédagogiquement et l'organisation d'hébergement, de restauration, etc. pendant les 12 jours du séjour. Beaucoup d'activités sont réalisées. Alors, on a un cahier des charges, en fait, de la mission du service national où on va traiter principalement des aspects de citoyenneté, du sport, de la connaissance des différents services de défense de l'État, de la sécurité, pompiers, Croix-Rouge. Également savoir gérer un budget. On va également discuter de transition écologique. On va discuter de tout ce qui va permettre aux jeunes de pouvoir ensuite participer dans la société dans laquelle ils vont évoluer demain. Le cahier des charges reste à peu près le même. Il y a, en fonction de ce qui se passe aussi dans notre société, les choses évoluent. Et on voit bien, on va mettre l'accent des fois sur des choses qui vont être vraiment du moment. Je pense notamment à la question de la transition écologique ou à la question du développement durable qui semble être aujourd'hui un vrai sujet de société pour lequel la jeunesse doit s'emparer. Mais on va surtout, avant tout, discuter de citoyenneté, donc les nouveaux sujets, tant qu'on continue à faire en sorte de permettre aux jeunes de comprendre la société dans laquelle ils pourront évoluer demain. Ça me semble le plus important. Alors, on a accueilli plus de filles que de garçons, 60% de filles à peu près contre 40% de garçons. Et après, sur le niveau scolaire, on avait beaucoup de jeunes qui étaient issus de la filière générale, mais on avait aussi de la filière professionnelle et technologique. Et nous, on avait principalement des jeunes qui venaient de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de Côte d'Armor sur le séjour de Château-Gontier. Alors déjà la question de la cohésion, je pense que d'apprendre à vivre avec les autres et la notion de vivre ensemble qui moi m'est très chère, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, de sortir un petit peu de son quotidien et peut-être des fois de la facilité de son quotidien et d'aller se confronter à de nouvelles rencontres pour construire les choses ensemble. Et ça va leur apporter peut-être plus d'autonomie sur la suite et surtout à comprendre la société dans laquelle ils évoluent pour pouvoir s'engager ensuite dans cette société-là. Quand on arrive, on est seul parmi un groupe et quand on ressort dans le groupe. Donc c'est ça qui évolue principalement et on voit pendant 12 jours tous les outils qu'on peut avoir pour faire société et pour pouvoir vivre ensemble au quotidien. C'est ça qui est plutôt intéressant, donc ils ressortent au moins avec ces compétences-là et ces outils-là en poche. Très honnêtement, moi je faisais partie de cette population et de cette catégorie de personnes qui avaient pas forcément un regard très positif sur le SNU, pour être très honnête. Et en fait, c'est les services de l'État qui ont contacté l'association des Franca pour savoir si on était partant pour aller dans cette aventure. Et du coup, on s'est dit que au lieu de rester buté sur notre idée initiale du SNU, c'était d'aller dedans et de voir concrètement ce qu'il en était. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le SNU et on est plutôt fier aujourd'hui d'y être allé parce que finalement, les Franca, on défend une vraie politique d'engagement de la jeunesse et le SNU peut être un outil à cet engagement de la jeunesse et à cet engagement de la jeunesse pour la société de demain. Donc c'est plutôt intéressant, mais voilà, c'est suite à une sollicitation des services de l'État.
Et demain, on continue de tirer le fil des différents témoignages avec celui d'une volontaire du SNU, Zoé Courcel, qui tirera le bilan de cette expérience. C'est la fin de notre émission La JT du local pour ce mardi. Restez avec nous. À 19h, il y a les rendez-vous de la PES, suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Pause Classique, avec ce soir un programme festif inspiré notamment du musical français. Je ne vous dévoile pas la suite, évidemment, il faudra écouter à 21h l'émission. Nous, on se retrouve demain, je vous souhaite une très belle journée.